Si le soleil ne revenait pas, suite du chapitre 5. Puis Saint-Martin d'en bas était paru, qui se trouve au fond d'un repli, et sert, autour d'une grande église de pierre, beaucoup de maisons au toit bas. Combien ?
Ma foi !
Ils firent encore quelques pas sans rien dire, puis Follonier, dans les 500.
1500 !
Dit Arletaz. L'église ne sonnait plus depuis longtemps. On a entendu qu'ils avaient commencé à chanter sous les voûtes, parce que la porte reste ouverte à cause de ceux qui n'entrent pas, mais écoutent la messe depuis dehors, devant la porte, ôtant par moments leur chapeau.
Écoute, dit Follonier, veux-tu qu'on reparle de la chose ce soir chez Pralon ? Apporte un papier pour le cas où, des fois, on arriverait à s'entendre.
Ils avaient assisté à la messe. Ils étaient remontés à Saint-Martin d'en haut. Il y avait eu une courte journée de 6 ou 7 heures, c'est tout, à cause du ciel malade et de la hauteur des montagnes. Après quoi, on avait vu dans l'ombre trembler une goutte de feu. C'est que la journée est finie. Encore une. Et puis, combien encore en tout?
Combien ça va-t-il faire encore de semaines?
Et combien est-ce que tu dépenses par semaine? Pralon n'avait pas l'air d'écouter. Pralon lisait le journal. La grosse Sidonie était en train de régler la TSF. Mais Follonier n'avait plus lâché Arletaz, sachant bien qu'il ne faut jamais abandonner une affaire avant qu'on ne l'ait menée à bonne fin. Il avait donc fait asseoir Arletaz en face de lui. C'est un beau parleur. Il disait à Arletaz,
« Voyons, combien est-ce qu'il te faut par jour ?»
Il avait sa pipe au coin de la bouche, et il y avait une espèce de sourire de l'autre côté de sa bouche. Mais ses yeux, eux, ne bougeaient pas, tandis qu'il regardait Arletaz avec fixité.
« Combien est-ce qu'il te faut par jour ? Et qu'est-ce que tu bois par jour ?»«
Oh, tu peux compter largement, » disait-il.
« Eh bien, c'est ça, mettons 5 litres. » Et puis il te faudra aussi aller chez le coiffeur, la nourriture, le vin, les impôts.
Eh bah, les impôts ne comptent plus si tout est fini en avril.
Ça ne fait rien, mets-le tout ensemble.
Il y a aussi les déplacements, c'est ce qui coûte le plus cher.
Quel déplacement ?
Oh, dit Arletaz, il faudrait pourtant bien que j'aille à présent jusqu'au Bouvray. C'est le seul bout du canton que je n'ai pas encore tenu.
Et Dieu sait, c'est au bord de l'eau. Peut-être qu'elle aime l'eau.
Tu m'as dit que ce n'était plus la peine.
J'aimerais mieux qu'elle soit avec moi quand le temps sera venu, parce qu'on passerait ensemble.
Eh bien, mais les déplacements.
J'ai déjà été à Brigue, j'ai déjà été chez les Allemands, et de l'autre côté, j'ai fait Martigny, Saint-Maurice, Monté. Il n'y a que ces bords du lac où les poissons sont logés par étage, les petits en haut, les gros au fond.
750 ?
Non.
800 ?
Non.
Les garçons étaient entrés. Ils étaient 6 jeunes gens, dont Lucien Revaz. Ils ont dit « Bonsoir, Sidonie ».
Et moi qui me disais que tu étais détaché de tout.
Mais ils prenaient Sidonie par la taille, parce qu'ils étaient plusieurs, et qu'être plusieurs rend entreprenant. Ils étaient gais, ils n'ont pas écouté ce que les deux hommes pouvaient bien se dire. Ils avaient été s'asseoir à l'autre bout de la salle à boire, 3 sur un banc, 3 sur l'autre banc.
« Tu me lâches, sans quoi attention !»
disait Sidonie en levant la main. Et eux, ils riaient.
« Eh bien, apporte-nous à boire !» lui disait-il.
Ils s'installent, ils portent leur figure à la rencontre les unes des autres, étant soutenus plus en dessous par leurs coudes qu'ils ont appliqués sur le bois peint en brun des tables, et il y a tout autour d'eux un lambrissage qui monte jusqu'à mi-hauteur des murs. Ils avaient fait marcher la TSF. C'était une valse. Puis étaient venues des nouvelles de la guerre d'Espagne. Alors ils s'étaient tus, tous ensemble. Ils avaient écouté. et ensuite était resté un moment encore silencieux. C'est alors qu'on avait entendu Arletaz qui disait « Je suis détaché ».
« On ne le dirait pas », a répondu Follonier.
Eux, ils se poussent du coude et ils se penchent de nouveau les uns vers les autres.
« C'est la faute d'Anzévui, ils ont tous perdu la tête !»
Ils se sont tournés vers Arletaz. Ils voient que les poils de sa barbe, qui sont raides, pointent en avant de 2 bons centimètres tout autour de sa figure, au-dessus de la chemise au col déchiré, sous un bonnet de poils qui semble les continuer. Et au milieu, il y a le rond de sa figure, et dans le rond de sa figure, il y a 2 petits yeux bleus.
Il ne lui manquait plus que ça, pensait-il.
Il était déjà devenu fou à cause de sa fille. Le voilà à présent devenu fou 2 fois.
Ils se poussent du coude, ils parlent à voix basse. Mais Lucien, tout à coup,
« Il n'y a pas que lui. »
Il disait, « Il y a mon père. » Il appelle Sidonie.
« Toi, tu es au courant. Eh bien, as-tu seulement vu Gabriel aujourd'hui ?»«
Et moi, j'ai pas pu aller la trouver. C'est mon père qui me défend. » Il a lui aussi perdu la tête, parce que je pensais me marier à la fin de l'hiver. Eh bien, mon père ne veut pas. Elle n'ose plus venir me voir. Moi, je n'ose plus aller chez elle. Et on n'a point d'argent, ni l'un ni l'autre.
Il dit, « C'est Sidonie qui fait nos commissions. Tu es une bonne fille, Sidonie. » Il a dit, « Il y a mon frère qui est dans le vignoble. Eh bien, je crois que je vais aller le rejoindre. » Parce qu'il a du moins le lac pour se distraire, lui. De l'eau, du bleu et 2 soleils, à ce qu'il dit. Et nous, rien que du blanc.
Du blanc, disait un des garçons.
C'est plutôt du gris.
Oui, du gris et point de soleil.
Et encore moins dans quelque temps.
Mais alors ils éclatent de rire. Et Follonier, à l'autre table, dit
« 900 ».
Puis ils ne disent plus rien du tout, c'est-à-dire Follonier et Arletaz, et ne se regardent même plus, bien qu'assis en face l'un de l'autre. Tout ce qu'ils font, c'est de temps en temps lever leur verre et se disent « Santé !» C'est qu'Arletaz a soif, et Sidonie rapporte 1 litre. Follonier articule 1 chiffre, Arletaz secoue la tête, c'est tout. Et c'est de l'autre côté de la salle à boire que vient maintenant tout le bruit, parce que c'est de la jeunesse et que la jeunesse est bruyante. Il disait à Sidonie, « Dis donc, tu viens avec nous ?»«
Ah, oh, c'est qu'on a besoin de toi. Il faut qu'il soit embêté, Anzévui, tu comprends ? Il nous faut une fille. »
Tu lui dirais, « Monsieur Anzévui, ça ne va pas, ça ne va pas. Il me faudrait de la tisane de fenouil. »
Il regardait son ventre qui bombait sous le tablier, car elle était forte de sa personne.
« Et Dieu sait peut-être que tu n'auras pas besoin de dire un mensonge. »«
Malhonnête, lâchez-moi !»«
Dieu sait, tu diras à Anzévui, c'est cette fin de mois, est-ce que je peux entrer ?»«
Nous, pendant ce temps, on se cache. »
Mais elle s'était sauvée dans la cuisine, dont on l'entend qui ferme la porte à double tour.
« 1000 !»
Le mot avait été lâché par Follonier. Mais eux, à la table du fond, ils ne l'avaient pas entendu. Ils riaient trop et de trop bon cœur. C'est Arletaz qui l'a reçu en plein dans son bonnet de poils, parce qu'il continuait à baisser la tête. Le mot a fait que le bonnet de poils s'est relevé, amenant à sa suite une petite figure ronde qui était au milieu de sa barbe, comme la lune dans un halo. Et cette fois, il ne l'avait pas secoué. Il n'avait pas dit non. Il n'avait rien dit. Il regardait seulement Follonier avec ses 2 petits yeux bleus.
« Oh, c'est bien parce que c'est toi !» disait Follonier.
« Et c'est bien parce que j'ai souci de t'assurer une bonne fin de vie. C'est la moitié de plus qu'il ne vaut, ce champ.
Mais enfin, disait-il, si tu es content comme ça, as-tu le papier ?»
Arletaz ne disait toujours rien.
« Je pensais bien que tu ne l'aurais pas. C'est bien pourquoi j'en ai préparé un. »
Il tire de la poche intérieure de son veston un vieux portefeuille en cuir brun, tout déchiré, qui était noué d'une ficelle. Il a dénoué la ficelle, difficilement, avec ses gros doigts, y mettant plus de temps peut-être encore qu'il n'aurait fallu. Mais c'était un moyen de ne pas trop laisser voir le sourire de contentement qu'il n'avait pas pu empêcher de se marquer sur son visage. Il sort du portefeuille un papier plié qu'il a tendu à Arletaz, qui continuait à être immobile et silencieux.
« Tiens !»
Il y avait sur le papier « Le sous-signé déclare vendre au citoyen Follonier Placide son champ des Ampères pour la somme de... » Il y avait un blanc. Dessous, signature. « C'est en attendant qu'on aille chez le notaire, parce qu'il faudra d'abord qu'on prenne rendez-vous. Si tu es d'accord, tu signes.
« Combien est-ce que tu me donnes d'avance, argent comptant ?»
dit Arletaz.
« J'ai plus rien. »«
Combien veux-tu ? » ?»«
100 francs. »«
50. » Mais cette fois, Arletaz avait tenu bon. Il voulait ses 100 francs et tout de suite. Follonier soupira, et puis... « Il nous faudrait une plume et de l'encre. On ajoutera sur le papier « Reçu 100 francs. » Et tu signes.
Hé, Sidonie !»
Il vit qu'elle n'était plus là. Il vit que la porte de la cuisine était fermée. Dans leur coin, les garçons s'étaient mis à parler bas. Et l'un ou l'autre, de temps en temps, jetait vers les deux hommes un regard par-dessus l'épaule. Follonier se lève. Follonier cherche à ouvrir la porte de la cuisine. Elle était fermée à clé.
Hé, Sidonie, où es-tu?
C'est pour avoir de quoi écrire. Elle avait entrouvert la porte dont elle retenait le bas avec le pied.
Qu'est-ce qu'il y a? Disait Follonier.
Qu'est-ce qu'il te prend? Il me faudrait une plume et de l'encre.
Où?
Disait-il.
Où ça? Qu'est-ce que tu dis?
Parce qu'elle se refusait à le laisser entrer.
« Derrière la caisse de la TSF !»
Elle avait refermé la porte. Il avait été voir derrière le poste de TSF. Il s'était aperçu qu'il ne fonctionnait plus. Quelqu'un avait dû tourner le bouton, puis était revenu s'asseoir. Et eux, les garçons... « Alors, c'est entendu, on y va. C'est toi, Lucien, qui fera la fille. Seulement, Sidonie ne voudra jamais nous prêter ses habits. »
« Il faudra pourtant bien qu'elle vienne, si elle veut qu'on la paie. »«
Une vieille jupe, un caraco, un fichu, et puis de quoi te faire la figure belle blanche, Lucien. Et puis une allumette pour les sourcils, tout sera dit. Et quelque chose pour faire rond par devant. »«
Tu roules ta veste en boule. »
Il regardait toujours à la dérobée vers l'autre table, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas été entendu. C'est ainsi qu'ils ont vu Arletaz qui prenait la plume, et Arletaz a dû écrire quelque chose. Puis Follonier avait tendu la main, comme s'il s'attendait à ce qu'on lui passât le papier. Mais Arletaz n'y avait pas consenti. Alors Follonier avait rouvert son portefeuille. Arletaz s'était mis à taper avec son litre vide sur la table. Heureusement qu'il était fait de gros verre avec un cul épais, parce qu'on ne venait pas. Et Arletaz tapait de plus en plus fort. Enfin, la porte de la cuisine s'est ouverte.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
Et Arletaz,
« Un litre, j'ai de l'argent. »
Follonier se lève et dit,
« Moi, je vais me coucher. »
Il avait bien fallu que Sidonie vînt pour finir, à cause qu'il y a des obligations dans le métier. Et s'étant glissée par l'ouverture de la porte qu'elle avait seulement entrebâillée, était venu jusqu'à la table d'Arletaz avec son litre.
« Oh » disait-il. « Hé, Sidonie, écoute, on te promet, on te laissera tranquille. On a quelque chose à te demander. »«
Oh, Sidonie, tu ne veux pas nous croire? Eh bien, regarde !»
Et Lucien et les autres, avec l'index de la main droite mis sur l'index de la main gauche, faisaient le signe de la croix. Arletaz avait rempli son verre, l'avait vidé d'un coup, l'avait rempli de nouveau.
« Qu'est-ce que vous me voulez encore ?» disait Sidonie.
Elle leur parlait de dessus le seuil de la cuisine, toute pleine de méfiance, prête à refermer la porte sur elle en cas de besoin. Et eux riaient bas. Eux, d'un mouvement d'épaule, désignaient Arletaz assis à sa table, la tête penchée en avant sur ses bras rejoints. Mais il ne paraissait rien voir et ne paraissait rien entendre, étant tout occupé à des choses qui se passaient au-dedans de lui, les yeux retournés vers l'intérieur.
Tu viens ?
Elle a fait un pas de leur côté. Ils lui ont fait signe de s'approcher encore.
Écoute !
Elle a vu qu'elle pouvait s'approcher tout à fait.
Écoute, tu n'aurais pas une vieille jupe et un vieux caraco à nous prêter ?
Pourquoi faire ?
Ils parlaient bas, ils ont montré Arletaz.
On te dira ça une autre fois. Et puis un peu de farine et d'eau. Et puis un miroir.
Et ils ont dit, et si on allait à la cuisine ?
Sidonie était intriguée. En même temps, elle voyait bien que les garçons ne pensaient plus à elle, ayant sans doute leur idée. La curiosité a été la plus forte.
« Si vous voulez. »
Ils ont passé devant Arletaz. Arletaz n'a pas bougé. On ne savait pas si ce qu'on voyait, c'était son bonnet de poils ou bien le dessus de sa tête. On ne savait pas si ce qu'on voyait, c'était sa barbe ou ses cheveux. Ils avaient pensé « Il est saoul. Ça lui arrive. » Et étant entrés dans la cuisine, ayant poussé la porte derrière eux,
« Tu comprends, Sidonie, puisque tu ne veux pas venir, c'est Revaz qui va faire la fille.
Oui,
mets-toi là qu'il te copie. Il faudrait seulement encore un traversin, tu en as un ? On te le rapportera. On va aller en visite chez Anzévui avec une fille, mais c'est blanc, les filles, et c'est rond, les filles. » Alors il faut que tu nous aides.
Sidonie, disait-il, il faut que tu nous donnes un baiser.
Mais cette fois elle avait ri, puis était sortie de la pièce pendant que eux allaient fouiller dans l'armoire où ils ont trouvé de la farine, et ils en ont mis un peu dans une tasse. Sidonie revenait avec des habits sur le bras. C'était une jupe et un corsage. Elle disait, ah, oh, les malins. Et puis, demandait-elle. « Vous irez ? Et puis quoi ? » ?»«
C'est pour lui faire peur, dis donc. Est-ce qu'il ne le mérite pas ?»«
Comment est-ce que vous allez lui faire peur ?»«
Eh bien, tu comprends ? Revaz, c'est une fille, et il entre.
Anzévui doit avoir l'habitude de recevoir des visites la nuit. Il vous dit, c'est 5 francs. On les lui donne, on peut entrer. Il te faut seulement faire attention, Lucien, qu'il ne te reconnaisse pas. »
Pendant que Revaz enfilait la jupe, puis c'est Sidonie elle-même qui lui a arrangé la poitrine parce qu'elle s'y connaissait.
Et puis, fais attention à ce que tu vas lui dire. Et puis, fais attention à ta voix. Essaie d'abord, puisqu'on est là, on te dira si ça va.
Eh, monsieur Anzévui, mon pauvre monsieur Anzévui, ça ne va pas.
Revaz avait une petite voix de fille. On disait, ça va.
« Je ne sais pas, ça n'a pas voulu venir le mois dernier, ça va faire déjà 15 jours, alors je suis venue voir si vous n'auriez pas quelque chose pour moi. Quelque chose, monsieur Anzévui. »
Ça va. »
Ils éclataient de rire, puis se tiennent devant Lucien Revaz avec la tasse de farine, et avec le coin d'un linge qu'ils ont mouillé, lui faisaient le visage blanc.
« Parce qu'il faut, bien sûr, que tu aies mauvaise mine. » Et puis ça va cacher ta barbe.
À présent, mets ton fichu. Avance-le un peu sur le front. As-tu une allumette ?
Bon, allume-la.
Et avec le charbon de l'allumette, ils lui ont mis du noir sous les yeux.
Il te faudrait encore un peu de rouge à lèvres, comme les demoiselles de la ville. T'en as pas, Sidonie ?
Tant pis.
Dis donc, un peu de sirop.
Parce qu'il y avait tout plein de bouteilles de sirop à moitié vide sur un rayon à côté de la porte. Et ils débouchent une bouteille de sirop de framboise, avec quoi ils ont humecté l'autre coin du linge qu'ils ont passé sur la bouche de Lucien, lui tendant le miroir.
« Qu'en dis-tu ? »
« Oh, charrette !»
Lucien ne s'était pas trouvé vilain, mais il s'est trouvé joli. Il s'était mis à rire pour mieux montrer ses dents, qui étaient devenues toutes blanches à cause des lèvres rouges.
« Eh bien, ça y est, est-ce qu'on y va ?»«
On y va. Et tu comprends, Sidonie, nous autres, on va faire la police, parce qu'on laissera entrer Revaz, et puis on cogne à la porte. Ouvrez-nous, au nom de la loi. Inutile de chercher à vous expliquer, on a tout entendu. Arrivez !»
Il parlait maintenant tout haut, et Sidonie a dit
« Attention, Iliar, le Taz, il pourrait vous vendre !»
Mais quelqu'un qui avait entrebâillé la porte, passant la tête par l'ouverture, a regardé ce que faisait Arletaz. Arletaz n'avait pas bougé, seulement son litre était vide.
« Il te faudra aller le lui remplir, » ont-ils dit à Sidonie.
« Êtes-vous prêts ?» se disaient-ils les uns aux autres. « Parce que, tu comprends, on emmène en Zévui, on lui dira qu'on va l'enfermer. » Et il se trouvera bien quelque part un creux avec une bonne épaisseur de neige en poudre pour l'y envoyer nager.
Ils n'ont pas eu besoin de passer par la salle à boire. La cuisine avait une seconde porte qui ouvrait sur le dehors. Il était peut-être 11 heures du soir. Il n'y avait pas une seule étoile. Heureusement qu'un des garçons a sorti de sa poche une lampe électrique. Ils sont modernes. Ils aiment les nouveautés. On n'avait qu'à peser sur un bouton. Ils s'étaient ainsi avancés tout le long de la ruelle. Alors, ils avaient vu ces deux gouttes de feu pendre dans rien du tout. L'une plus proche et un peu au-dessous d'eux, à main droite, l'autre plus lointaine et vague, au-dessus d'eux.
« Regarde-moi ça !» disait-il.
« C'est encore de sa faute, au vieux !»
Montrant le point de feu d'en bas,
c'était la lampe à huile de Brigitte, parce qu'elle ne s'éteint plus jamais.
Et il y avait là-haut l'autre fenêtre éclairée.
C'est ce vieux fou, parce qu'il passe une partie de la nuit à lire dans ses livres.
Juste de quoi attirer le malheur sur la commune, disait-il,
parce qu'il doit être un peu sorcier. Mais on va lui montrer qu'on l'est encore plus que lui, quand on veut.
Lucien Revaz s'est avancé tout seul dans la direction de la fenêtre éclairée. Eux avaient été se cacher, deux d'un côté de la maison, trois de l'autre. Ils regardaient Revaz s'approcher et le distinguaient vaguement à cause de la lueur qui dépassait un peu le mur et dans laquelle il était entré.
« Tout à fait une fille de chez nous, une pauvre fille !»
Laquelle avait alors joint ses mains sur sa ceinture et penché la tête sous son fichu, pendant qu'ils étouffaient leur rire, les garçons.
« Monsieur Enzévui, oh, mon pauvre monsieur Enzévui, ouvrez-moi »
Elle a heurté au carreau. Les autres regardaient de derrière chacun des angles de la maison, et il s'est passé un petit moment pendant qu'elle recommençait.
« Ouvrez-moi, monsieur Enzévui, c'est que j'ai besoin de vous. Oh, je suis bien malheureuse !»
On ne venait pas. Elle cogne de nouveau au carreau.
« Monsieur Enzévui, c'est que c'est pressant. Oh, monsieur Enzévui, ayez pitié de moi !»
Mais alors les garçons avaient vu Revaz reculer un peu plus encore, puis faire brusquement demi-tour et disparaître dans la nuit. Ils s'y sont jetés à sa suite, essayant bien de le rejoindre, mais ils n'osaient pas appeler, et il y avait seulement la lumière de la lampe de poche qui s'allumait soudain, faisant un rond blanc sur la neige, puis s'éteignait tout aussitôt. Chapitre 6.
Je plante un clou, ça en fait 12. Je plante un clou tous les dimanches. Ensuite, je vais voir s'il y a encore de l'huile dans la lampe, et il faut aussi la moucher. Je monte sur un tabouret avec ma hache, je tiens la pointe de la main gauche, et avec le dos de la hache, je tape dessus.
La lampe éclairera quand le soleil sera éteint. Si le soleil s'en va tout à fait, elle me reste. C'est pourquoi il faut y mettre tous ses soins. Il faut veiller à ce que l'huile n'épaississe pas dans le récipient. Il faut prendre garde à ce que la mèche ne soit ni trop courte ni trop longue. Quand elle est trop courte, elle s'éteint. Quand elle est trop longue, elle charbonne.
Elle s'était assise près de la fenêtre. Elle était pleine de contentement. Elle ne savait pas pourquoi.
car le jour venait et ne venait pas. Il venait bien, parce que c'était l'heure. Mais est-ce le jour ou le brouillard, cette coloration de l'air? Ce n'était pas le vrai jour, c'était une fausse lumière. Et elle semblait monter de la neige à la couche accrue, comme si le peu de clarté qu'il y avait dans le peu d'espace qu'on pouvait voir provenait d'en bas, non d'en haut. Mais Brigitte, elle, était au chaud derrière sa fenêtre. Elle avait sa lumière à elle, de sorte qu'elle n'avait qu'à laisser faire et était dans le repos. Et il dit qu'il ne sait pas, il ne sait pas bien encore, mais il calcule. Il est sous ses plantes et il calcule. Il voit que la terre va balancer un peu et le soleil n'éclairera plus et nous serons dans la nuit. Mais qu'est-ce que ça fait? Si nous sommes prêtes, nous autres, si nous avons notre petite lampe et nous serons assis sous notre petite lampe, disant que ce qui doit s'accomplir trouve son accomplissement. Elle écoutait, on n'entendait rien. Il avait encore neigé pendant la nuit. Il n'y avait pas eu de vent, et la neige tombait du ciel, puis tombait, comme quand un arbre perd ses feuilles. Il n'y avait jamais eu autant de nez d'enfants aplatis derrière les vitres que ce matin-là, parce qu'on les empêchait de sortir. Sitôt levés, ils couraient à la fenêtre, où leur haleine faisait fondre la glace. Du dehors, on voyait leur figure être au milieu d'un petit rond noir, avec un nez écrasé et deux yeux qui vous regardaient. Elle se tenait bien tranquille. « À midi, pensait-elle, j'irai chez Anzévui. Il est bien tranquille, lui aussi. C'est que tous les deux, on a fait sa vie. » Et on la repasse dans sa tête avant qu'elle finisse, songeant au moment de bonheur qu'on a eu, qui font dedans comme des nœuds à une corde, ce qui l'empêche de vous glisser trop vite dans les mains. C'est ce qu'elle se disait. Pendant qu'Isabelle était dans son lit avec son mari Augustin Antide, et il y avait au-dessus du lit leur cousin, le gendarme, dans son bel uniforme. « Quelle heure est-il ? »
8 heures.
Déjà ? C'était à cause du peu de jour qui se voyait dans les petites fenêtres, car on ne peut pas dire qu'il entrait. Il venait, il se heurtait au verre, et là il était arrêté. L'été, j'y mettrai des fleurs dans des caisses. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, Augustin ? Qu'as-tu besoin de bouger comme ça ?
Je vais me lever.
Tu as le temps.
Et les bêtes ?
Mais tu sais bien que ces gens qui gouvernent ce matin.
Ah, l'agité.
Puis, se penchant à son oreille, « Qu'est-ce qu'il y a, Augustin? On ne va pas pouvoir aller à la messe aujourd'hui, il y a trop de neige. Et voilà, alors que pour une fois qu'on aurait l'occasion de faire la grasse matinée, tu ne peux pas rester en place. » Elle passait doucement sa jambe contre sa jambe à lui, doucement frottait sa cuisse à sa cuisse, puis, parce qu'il lui tournait le dos, a avancé à sa rencontre la bonne chaleur de sa poitrine. « Ah, le grand fou !» disait-elle. Et puis elle lui disait « Bouge pas !» Et lui passant un bras par-dessous, l'autre bras par-dessus le corps, avec ses mains, va le chercher. « Est-ce que c'est à cause d'Anzévui ? Eh bien, si le soleil, sais-tu ce qu'on ferait ? Si le soleil ne revenait pas ? Dis donc, sais-tu ce qu'on ferait, nous deux ? On se mettrait au lit pour ne pas avoir froid. » Elle lui soufflait chaud dans la nuque, peu à peu la menait à elle, peu à peu le faisait se tourner de son côté. « Et puis, sais-tu ce qu'on ferait ? » Alors, elle a été le chercher avec sa bouche, et faisant dans la nuit comme si elle se trompait, « Augustin, où es-tu ? » « Oh ! » disait-elle, « c'est pas toi ! » C'est ton menton, tu piques. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est ton nez, c'est pas toi. Mais dis, sais-tu ce qu'on ferait ensuite? Parce qu'il n'y aurait plus besoin de bouger, ou on bougerait seulement un petit peu. Augustin, dis, si le soleil ne revenait pas, eh bien, on serait là ensemble. On ne verrait rien, on n'entendrait rien, on ne saurait rien, et on ne serait que nous deux, parce que c'est bon, rien que nous deux. » Puis les mots ne sont plus venus, mais c'est une souris qui est sortie de son trou dans le grenier au-dessus d'eux et trotte. Puis il y a quelque chose qui dégringole, puis c'est comme si on roulait une noix. Ce qui n'avait pas empêché, un instant plus tard, Augustin de se jeter à bas du lit et de s'habiller hâtivement. Or, le lendemain, ou 2 jours après, Cyprien Métrier était dans sa cuisine avec Tissière. C'était au commencement de l'après-midi. Eux, ils étaient dans la cuisine, et le père Métrier était monté se reposer un moment dans sa chambre. On n'a pas beaucoup d'ouvrage l'hiver à la montagne, et il vaut encore mieux dormir que de ne rien faire. Toute la matinée, Métrier avait été occupé à couper du bois, et c'était le vieux qui le ramassait, empilant ensuite les morceaux contre un mur, ce qui est une besogne où on n'a pas besoin des yeux, parce que les mains y suffisent. Le vieux se baissait, on le voyait tâtonner sur le sol autour de lui, et ramassant les morceaux, un à un, à mesure qu'il les rencontrait sous sa main, les logeait au creux de son bras, comme un enfant qui l'aurait eu. Le vieux Métrier tenait à montrer qu'il pouvait encore être utile. C'est ainsi que midi était venu. Eux étaient à présent dans la cuisine, c'est-à-dire juste au-dessous de la chambre du père Métrier, avec une bouteille de marc. Cyprien avait posé la bouteille et les 2 petits verres sur un tabouret, entre deux. Et de temps en temps, ils tiraient tous les 2 sur leur pipe, les pieds au chaud, ayant parlé de choses et d'autres, puis ils n'avaient plus rien dit. On voyait par la fenêtre, au-dessus d'un premier toit, un second toit, c'était tout. Et ils n'étaient chacun, avec ses 2 pentes, qu'un étroit triangle de bois noir. Mais il y avait dessus 2 énormes plumiers blancs de plus d'un 1/2 mètre d'épaisseur, 2 énormes sacs de plumes à demi gonflés dans une couette bien propre, avec cette seule particularité qu'ils se présentaient par la tranche, et sur cette tranche les différentes couches étaient marquées par un trait plus sombre, par le plus ou moins de densité de la neige, par son plus ou moins d'épaisseur. Ainsi venaient ces masses blanches qui s'appuyaient contre le gris du ciel, et c'était froid contre ce gris qui était triste. Tout à coup, Tissière avait levé la tête, et, sans regarder Métrier, « Dis donc !» Puis, « Tu ne m'as jamais dit ce qui t'était arrivé ?»«
Quand ça ?»«
Quand on a été te chercher, tu sais ?»«
Oh, je serais bien revenu tout seul !»
Ils ne se regardaient ni l'un ni l'autre, parce que Tissière regardait le feu en fumant sa pipe et Métrier ses pieds, les coudes sur les genoux, penchés en avant.
« C'est vrai ?
Tu as bien vu, j'étais pas loin d'être arrivé. »«
Oui, mais où étais-tu ? » ?»«
Ah, bien oui, » disait Métrier, « j'étais dans les fonds. » »«
Il faisait nuit. » »«
Et puis quoi ? » disait Métrier. Les mots lui sortaient difficilement de la bouche. Il ne répondait qu'avec peine et comme malgré lui. Seulement il semblait assez que Tissière fût décidée à tout savoir et à ne pas se laisser décourager par les silences de son collègue, de sorte qu'il avait poursuivi quand même.
« Ma foi, moi, j'étais inquiet, parce que c'est fond, la nuit. Et nous autres, on suivait tes traces et on avait un falot, toi... »
Cyprien s'était redressé. Il a retiré sa pipe de sa bouche.
« Est-ce que je ne connais pas la montagne aussi bien que toi ?»«
C'est pas ce que je veux dire. Seulement, » disait-il, « comment est-ce que tu avais fait, toi, pour perdre tes traces au retour ?» Ils étaient 2 amis. Ils chassaient toujours ensemble. Et voilà que Métrier avait brusquement rebaissé la tête, ayant vu sans doute qu'il ne lui serait pas facile de tromper Tissière. Il lui a dit « Tu ne bois pas ?» Il a rempli les verres qui étaient vides. Ils ont bu, l'un et l'autre. C'était un bon marc, réchauffant. C'est une bouffée de chaleur avec un parfum qui vous descend par un tuyau jusque dans le ventre et par un autre vous monte dans la tête où elle vous dégèle les idées qu'on a. Si bien que Maitreyer s'était décidé.
« Tu comprends, j'étais montée jusqu'au grand dessus. »«
Au grand dessus ? » ?»«
Oui. »«
Pourquoi faire ? Et puis tu as pu ?»«
J'ai pu. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas pu ? Et puis écoute bien, tu te rappelles ce qu'a dit Anzévui ? Eh bien, moi, ça m'a fait l'ennui du soleil, et je me suis dit, allons le chercher. »
Tu n'as pas voulu, toi. C'est bien ta faute, tout ça, tissière.
Oh, je ne t'en veux pas, c'est oublié.
Mais Dieu sait peut-être que, si tu avais été là, on aurait tiré une chèvre. Quand même, on n'y voyait pas plus de 20 pas.
Enfin, on aurait été 2. Et tu aurais vu, toi aussi.
Quoi ?
Eh bien, dit Maitreyer, la tête coupée, parce que c'est tout ce que j'ai vu.
La tête coupée.
Ma foi, oui, et nous autres, on est dans le brouillard, mais peut-être vaut-il mieux qu'on y reste, jusqu'à ce que... Parce que moi, ça m'a porté un coup. J'ai lâché mon fusil. J'ai voulu aller le chercher, et j'ai glissé.
Mais alors, on a entendu un craquement dans la chambre au-dessus d'eux. Puis presque en même temps, un bruit comme celui d'un corps qui tombe. Les deux hommes ont grimpé en courant l'escalier. Ils ont trouvé le père Maitreyer étendu sur le plancher, à côté de son lit. Un peu d'écume lui sortait de la bouche, il avait les yeux tout blancs. Ils l'ont pris l'un par les épaules, l'autre par les pieds. Il était raide, quoique chaud. Et eux le soulevaient comme s'il avait été une statue taillée dans de la pierre grise. Il y avait seulement un peu de sang sur le plancher, parce qu'il était tombé à la renverse. Il y a eu seulement un peu de sang au creux de l'oreiller quand ils l'eurent couché sur le lit.
« C'est rien !» disait Maitreyer. « Père, c'est rien ! Dites donc, père, c'est moi ! Vous m'entendez ?»
Tandis que Tissière avait ouvert la fenêtre et appelait par la fenêtre, puis est sorti en courant. Et alors le monde est venu. Et il est venu même plus de monde qu'on aurait voulu. Tout le village était arrivé. On disait
« Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est le vieux Maitreyer.
Qu'est-ce qu'il a eu ?
C'est un coup de sang, il est tombé de son lit. »
Et les femmes disaient « Il faut lui mettre des sangsues derrière les oreilles. »
« Oui, mais où les prendre ? Il faut le faire boire chaud. On ne peut pas lui ouvrir la bouche.
Il faut téléphoner au médecin. »
Et c'est bien à quoi on s'était décidé. Mais le médecin ne put se mettre en route que le lendemain matin. Il avait fait la moitié du chemin dans son automobile, l'autre sur un mulet qu'on avait envoyé à sa rencontre. C'est Jean Antide, le beau-frère d'Isabelle, qui menait le mulet par la bride. Il la tenait solidement dans son poing fermé à côté du mort, parce que le pied vous manquait tout à coup là où la neige avait été entassée par le vent, tandis qu'à d'autres places, le sol était gelé sous la neige qui le recouvrait, et le fer du sabot ne mordait même pas. On les vit venir vers les 11 heures. Le vieux Maitreyer n'avait pas bougé de toute la nuit, et c'était Brigitte qui l'avait veillé avec d'autres femmes. On les a vus venir de loin, le médecin et Jean. Le mulet était sans jambes. À côté du mulet, il y avait un garçon sans jambes, un personnage raccourci. C'était comme si le ventre du mulet avait enflé. Il traînait presque au ras des gonfles, qui est le nom qu'on donne à ces accumulations de neige que fait le vent. Car il vient comme avec une pelle. Et c'est comme si toute une équipe d'hommes, à certaines places, avait travaillé, comblant entièrement le vide qu'il y a dans le bas des talus. Puis tout à coup, la bête et l'homme se mettaient à pousser par en bas, s'allongeaient, était grandi, redevenait complet. C'était aux places où le chemin avait été au contraire balayé, et eux apparaissaient dans toute leur hauteur, avec sur le mulet le médecin, et à côté Jean, avec sa figure drôlement brune, qui parlait en faisant des gestes, tantôt montrant le village qui était en vue, tantôt par-delà le brouillard, des choses qu'on ne voyait pas, des choses qui avaient été, des choses qui ne sont plus, mais qui seront peut-être de nouveau, une fois ou l'autre. Là-haut, sur la droite, et là-haut en face de lui, là où par le beau temps brille une pointe blanche, là où on voit par le beau temps des points noirs qui se déplacent devant une paroi de rocher. Elle est rose, elle est grise, elle brille au soleil comme du verre. Elle est comme de l'or quand vient le soir. Mais aujourd'hui on ne voyait rien. Et eux seulement avaient été vus par les enfants qui les guettaient, qui se mirent à courir jusqu'à la maison des maîtriers, qui couraient en criant « Les voilà, les voilà !» Le vieux maîtrier n'avait pas bougé. Est-ce qu'il n'y avait pas une malédiction sur lui ? Il n'y avait plus que Brigitte et Cyprien dans la chambre. On entre, les gros souliers à clous ont fait du bruit dans l'escalier. On entre. C'était le médecin, un homme encore jeune. Le vieux ne bouge pas. Et Cyprien avait commencé à raconter comment l'accident était arrivé. Le médecin avait pris le poignet du père maîtrier, puis avait sorti sa montre. Le vieux maîtrier ne bouge pas. Il avait un peu d'écume autour des lèvres, comme les vieux mulets pas bien soignés. Un petit bruit régulier, comme celui d'une lime à bois, sortait de sa bouche. Le médecin a haussé les épaules. Il a dit « Avez-vous de l'eau chaude ?»« C'est qu'il n'y voyait presque plus, » disait Cyprien. « Quel âge a-t-il »«
75. »«
On va essayer de lui laver la bouche. » Il avait ouvert sa sacoche. Brigitte avait été chercher de l'eau à la cuisine. Il a secoué dans le verre quelques gouttes d'un liquide brun. « Il me faudrait une cuillère à soupe. » Il disait à Cyprien, « Il vous faut m'aider. » Ils ont cherché à asseoir le malade sur le lit, mais il résistait, sans qu'il en eût conscience. Son corps tout entier résistait, par une espèce de volonté à lui, et c'est que ses jointures ne voulaient plus jouer, de sorte qu'ils n'ont pu qu'incliner un peu le corps du père maîtrier en lui glissant un traversin sous les épaules. Le père maîtrier ne bougeait toujours pas. Ses yeux mi-clos ne vous regardaient plus. En se penchant un peu, on aurait vu par-dessous les paupières qu'ils étaient gris comme sa peau. Ses yeux ne vous regardaient plus, ni personne, ni aucune chose. Et le médecin disait « Enfin quoi, il ne souffre pas, c'est déjà autant de gagné. » Essayant pendant ce temps de lui ouvrir la bouche avec le manche de la cuillère qu'il avait introduit entre les gencives édentées, et disait à Cyprien « C'est seulement pour essayer de lui faciliter la respiration. Tenez-lui la tête, c'est ça. » Mais le manche pliait, les mâchoires restaient soudées, et tout ce que le médecin avait pu faire avait été d'humecter un linge avec lequel il lui avait lavé les lèvres, et l'enroulant autour de son doigt, l'avait passé sur le palais. Alors l'écume est reparue, tandis que le bruit de lime se faisait plus marqué, comme quand le menuisier reprend courage à son travail. « Je vais essayer quand même de lui faire une piqûre. Vous lui mettrez un linge glacé sur la tête. Vous ferez chauffer du vinaigre, vous le lui appliquerez autour des chevilles. Il faut tout essayer, bien sûr. » Vous n'aurez qu'à me donner un coup de téléphone demain matin, s'il est encore là. » On entendait devant la maison le bruit de nombreuses personnes qui parlaient à voix basse, car tout faisait silence à présent dans la chambre, où brûlait une petite flamme d'alcool bleu et jaune. C'est tout le village qui avait profité de la présence du médecin pour venir lui demander une consultation, comme ils font. Et c'est bien un peu pourquoi, dans les montagnes, les médecins consentent à ces longs voyages qui leur feraient perdre sans cela toute la journée à cause de la longueur et de la difficulté des chemins. Le médecin avait remis la seringue dans sa boîte. « Attendons, disait-il, on ne sait jamais. Enfin, téléphonez-moi et bon courage. » Il a serré la main à Cyprien, il est sorti. Et tout de suite, Justine et Monet l'avaient arrêté. « Oh, monsieur le docteur, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est mon petit qui ne va pas. » Puis on avait vu Reval s'approcher. C'était à cause de son genou. Lui, là-haut, ne bougeait pas. Il a continué à ne pas bouger. Il a continué à faire son petit bruit régulier comme celui du verre au cœur d'une poutre. Le soir était venu, les gens s'en étaient retournés chez eux. Alors le bruit a commencé à se faire plus espacé, plus faible, comme le chant du grillon quand vient le mauvais temps. Revaz était arrivé. Revaz était entré dans la chambre. Revaz avait pris Cyprien à part. « Sais-tu ? Mon genou, le médecin l'a vu. Eh bien, il m'a dit qu'il était guéri. C'était une crise de rhumatisme articulaire. « Eh bien, disait Revaz, qui est-ce qui l'a guéri ? Veux-tu que j'aille le chercher ?» Cyprien secouait la tête. « Il porte malheur, disait-il. « Enfin, qu'est-ce que tu vas faire ? J'en sais rien. Et tu vois bien que ton père va passer. Alors, qu'est-ce que ça te coûte d'essayer encore ?»« Oh, bien sûr, disait Brigitte qui s'était approchée. « C'est qu'il est savant, lui. Il voit profond. Et il y a son livre à lui. Et c'est un vieux livre, et un bien plus vieux livre que ceux des docteurs d'à présent. Il saura, lui, ce qu'il faut faire. » Cyprien n'avait plus rien dit. Revaz avait donc été chercher Anzévui. Et Anzévui, tout d'abord, n'avait pas voulu venir. Mais Revaz lui disait « Montrez-leur ce que vous pouvez faire. Vous m'avez déjà guéri le genou. Et lui, le vieux, Dieu sait où est le mal, mais vous le trouverez, le mal, et il irait chercher où il est. » Anzévui disait « C'est trop loin. J'ai trop de peine à marcher. » « Le chemin est fait, vous savez bien, puisque c'est Brigitte qui le fait. Et moi, je suis solide de nouveau sur mes jambes, et il vous faudrait seulement un paletot. » Il y avait, pendus à un clou, une vieille pèlerine que Revaz lui a jetée sur les épaules et un gros cache-nez de laine qu'il lui a mis autour du cou. Alors Anzévui s'est penché sur son bâton. Il avait d'un côté son bâton, de l'autre Revaz. Et appuyé d'une main sur la grosse tige d'épine à corbin, son autre bras était passé sur celui de Revaz qui le soutenait. Ainsi, il faisait un pas, puis encore un, dans la nuit noire. Il avançait le pied, puis s'arrêtait, puis il avançait l'autre pied. Revaz lui disait « Là, faites attention, il y a une bosse. Là, il y a une bonne place, ça y est. » Et on y voyait goutte. Et ils étaient sans lumière. Seulement, ce soir-là, toutes les fenêtres du village étaient éclairées, juste en avant d'eux et un peu au-dessous d'eux, de sorte que les bords surélevés du chemin se distinguaient à peu près. Où ils se sont avancés peu à peu, les deux hommes, tandis qu'on entendait par moments Anzévui soupirer, et ils toussotaient. Mais Revaz disait « On approche, on y est presque !» Et puis c'est un brave homme, vous savez, et il était déjà en train de perdre la vue, et il faudrait bien empêcher que tous les malheurs ne lui tombent dessus à la fois. Attention ! Bon, allez-y toujours, je vous tiens. Et puis je crois bien qu'il avait votre âge, voyez-vous ? Oui, c'est un coup de sang. Il est tombé à la renverse en voulant sortir de son lit. Ils durent se mettre à deux pour lui faire monter l'escalier. On avait fait sortir le monde de la chambre. On avait poussé le fauteuil au chevet du lit. On avait dit en Anzévui « Mettez-vous là !» Il s'était laissé aller en arrière contre le dossier. Il tenait son bâton entre ses jambes. Le grand chapeau de feutre au bord usé qu'il avait gardé sur sa tête laissait échapper de côté deux longues mèches de cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules. Et par-devant sa barbe, lui tombait jusque sur le ventre. Il regardait le vieux métrayé avec ses petits yeux gris. Il la regardait ainsi un long moment sans bouger, sauf un léger tremblement qui était dans ses mains et un autre léger tremblement qui faisait remuer sa barbe sur sa poitrine. Puis « Martin ! Martin ! » disait-il.
Tu me reconnais ? »
Mais l'autre n'avait toujours pas bougé. Alors Anzévui l'avait considéré de nouveau en hochant la tête, après quoi il avait dit
« Martin, je vois ce que c'est. Il te faut seulement aller. »
Alors on avait vu le corps du vieux brusquement se détendre. Sa souplesse lui avait été rendue comme à de la terre gelée quand un vent chaud souffle dessus. Il a levé un peu les mains, sa bouche s'est entr'ouverte comme s'il allait dire quelque chose, et sa mâchoire est allée vers en bas, lentement, à quoi on a vu qu'il était mort. Alors les vieux du village sont venus, l'un après l'autre, lui faire visite. Et ils n'étaient guère que 3 ou 4, pendant qu'on entendait les coups de marteau dans l'atelier du menuisier. Ils se tenaient sur le pas de la porte, ils regardaient vers le lit, ils disaient
« C'est toi, Martin Métrayé ?»
Ils s'avançaient. Ils prenaient sur la table la brindille de mélèze qui trempait dans l'eau bénite. Et debout devant le lit, « Au revoir, Martin Métrayé. Bon voyage. Tu as été un brave homme, Martin Métrayé. » Il le regardait encore une fois. On lui avait mis ses habits du dimanche. C'étaient des habits noirs. On lui avait mis sa chemise du dimanche. C'était une chemise blanche. Et sa cravate du dimanche. C'était une cravate en soie. Ses mains, qui étaient comme 2 paquets de petites choses, dures et longues, enveloppées dans du vieux papier de journal, tenaient le crucifix sur sa poitrine. « Tu as été un bon camarade !» Et puis, « Tu te rappelles, à la grande cible, le dimanche du patron ?»« Eh bien, c'est fini, Métrayé. »« Mais ça ne fait rien, » disait-il. « Tu as peut-être de la chance. Tu es mort de ta mort à toi. » Tu es mort quand tu as voulu. » Le menuisier avait fini de planter ses clous. Le menuisier s'était mis à peindre le cercueil en noir. Et le lendemain matin, ils sont partis pour Saint-Martin d'en bas, où les morts sont enterrés dans le petit cimetière qui entoure l'église. Il continuait à geler dur. La neige, sous les pas des porteurs, plaignait comme un enfant malade. Le chemin avait été ouvert à la pelle une fois de plus. Il était bordé par places de murs de neige de plus d'un mètre, et il avait peu de largeur. Alors il soulevait le brancard à bout de bras, et la caisse noire, là-haut, balançait d'arrière en avant, semblable, tout parmi le moutonnement de la neige, à un petit bateau sur une petite mer. « Est-ce pour te montrer le pays encore une fois, Métrayé ? Parce qu'il est grand et beau, vu d'ici d'ordinaire. Est-ce que c'est pour que tu le vois de plus haut encore, comme quand on plane ? Comme quand on est dans les airs ? Comme quand le bon oiseau, sur ses ailes ouvertes, a au-dessous de lui tout un grand vide bleu ?» Mais on ne voyait rien. On continuait à ne rien voir. Et la terre dans le cimetière était même tellement gelée qu'en attendant qu'on pût s'y attaquer, il leur avait fallu déposer le cercueil sous un tas de neige dans lequel ils avaient enfoncé la croix.